Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs, nous sommes le 22 février 2019 et vous écoutez une interview de Proxy Jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes 2019. Je suis Hammer et je suis accompagné de Paul Gara. Bonjour Paul Gara.
Guten Tag, Hammer.
Comment vas-tu en ce vendredi matin?
Mir ist gut. Faut que je m'arrête là, je promets.
Très bien. Bon, on ne va pas faire l'interview en allemand. Nous accueillons ce matin sur le stand de Proxy Jeux, Hervé Rigal. Bonjour Hervé.
Bonjour Hammer, bonjour Paul.
Comment vas-tu?
Très bien, hein, même si... Ça commence déjà à être fatigant et on n'est qu'au début du festival, mais nous, on est là depuis longtemps.
Ah, très bien. Alors écoute, puisqu'on est à Cannes, on a un petit fil rouge pour toi, un petit questionnaire cannois. Alors pour toi, Cannes, c'est plutôt jeu ou cinéma?
Jeu.
Plutôt bière ou champagne?
Bière.
Plutôt camping ou Martinez?
Nous, on est plutôt entre les deux, là.
Ah, d'accord, réponse originale. Plutôt off ou dodo?
Off en privé.
Plutôt salon ou festival?
Festival.
Et plutôt pro ou perso?
Plutôt perso.
Très bien, merci de ces réponses.
On reçoit Hervé qui, bien sûr, pour nous, avec Hammer, on a une petite saveur particulière parce que c'est l'auteur de Shakespeare, qui est un jeu qu'on aime particulièrement, donc on ne pourra pas s'empêcher de lui en parler un peu.
Absolument.
Et aussi parce que tu as eu une actu avec la boîte de jeu, avec la présentation de Neta Tanka, qui a fait l'objet d'un Kickstarter
au mois de juin.
Et donc, tu vas pouvoir aussi nous parler beaucoup de ce jeu-là qui sort et qui avait pas mal, qui avait bien réussi son financement participatif.
Ouais, la campagne a été plutôt très réussie, au-delà, je pense, quand même des espérances que l'on avait au départ.
Alors effectivement, moi je ne peux pas m'empêcher de revenir un petit peu sur Shakespeare, et peut-être que tu pourras faire un lien entre les deux jeux, entre Shakespeare et Neta Tanka. Shakespeare, c'était en quelle année, tu te souviens?
Shakespeare est sorti en septembre 2015.
Septembre 2015, effectivement. Alors aujourd'hui, ça fait donc 3 ans et demi, ça nous paraît déjà une éternité. Est-ce que c'est un jeu qui a bien réussi, qui s'est bien vendu?
Relativement. Après, Istarine n'a pas donné non plus tous les chiffres. Je sais que tout ce qu'ils avaient fait produire a été vendu. Maintenant, je sais que certaines boutiques ont peut-être encore quelques boîtes dans leur rayon, mais au-delà de ça... Après, l'aventure d'Unlock pour Istari a fait que, justement, pour l'instant, Shakespeare est le dernier vrai Istari.
Oui, c'est ce qu'on se disait ce matin, justement, avec Paul Gara. Est-ce que tu penses que le jeu pourrait être retiré un jour, ou ça n'est qu'hypothétique?
Je n'en ai aucune idée. Je comptais justement essayer de rencontrer Cyril pour en discuter un petit peu là. Je ne l'ai pas encore vu. Après, je sais que j'ai un autre éditeur qui m'a demandé si éventuellement... Mais bon, c'est pas à moi qu'il faut poser la question, c'est à Istari.
On parlait de Shakespeare. C'est un jeu dans lequel le thème est un thème très original. Et très fort, et le jeu permet une grande immersion dans un thème vraiment atypique.
Merci, mais après, je pense que c'est un avis personnel, parce que des gens, au contraire, ne l'ont pas ressenti. Après, je pense que, quels que soient les jeux, on peut aimer ou ne pas aimer, ça ne veut pas dire que le jeu est bon ou qu'il est mauvais, ou... On a des sensations différentes les uns les autres.
Mais nous, ce qu'on se demandait, c'est le thème t'est venu lié avec la mécanique, ou c'est deux choses qui ont été décorrélées?
Alors, l'histoire de Shakespeare existe suite à une petite question d'une animatrice, c'était en 2010, je crois. Une animatrice Asmodée avec qui on déjeunait lors d'un festival, et j'étais avec un autre copain auteur, et elle nous a demandé comment vous faites les jeux, tout ça, vous commencez par quoi. Et mon copain a dit écoute, il nous faut un thème, donne-nous un thème. Et elle a dit théâtre. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir à certaines choses. J'ai laissé de côté. Et le deuxième déclencheur, là, ça a été une visite au Musée national du costume de scène à Moulins, à côté de chez moi, où une collègue, parce que je suis enseignant, une collègue avait proposé d'emmener des classes et d'accompagner. Et le retour dans le CARS, la mécanique se mettait en place.
Donc l'idée de jouer sur les costumes, les décors, c'est d'assembler vraiment...
Tout à fait.
Le jeu.
Voilà, c'est né comme ça.
Et après, du coup, tu as fait un travail de documentation pour le choix de Shakespeare, et après, de documentation sur les pièces pour trouver les bons personnages.
Alors,
et...
il faut savoir que c'est très, très bizarre l'histoire, parce que moi qui suis plutôt justement féru de jeux d'histoire, j'ai commencé à faire un jeu qui s'appelait Tous en scène,
oui,
mais qui parlait de contemporains, parce que je suis allé chercher des photos d'acteurs sur Google pour faire mon proto, et du coup j'en faisais un jeu sur le théâtre actuel, quoi, en quelque sorte, et c'est la rencontre avec Cyril qui a déclenché la suite.
Donc c'est elle qui a donné l'idée du théâtre shakespearien ou...
Non, au départ il m'a dit ça me plaît, transpose-moi ça au XVIIe siècle et puis on en reparle, voilà. Donc moi bien sûr je suis parti plutôt sur Molière, et c'est après la signature. Le jeu était devenu donc tout comédie, ça s'appelait comédie. Et ensuite, une fois la signature du contrat, on arrivait sur l'année justement de l'année Shakespeare. Et pour plusieurs raisons, Cyril et Istari ont souhaité que ça soit plutôt sur le théâtre shakespearien.
Moi je trouve qu'il y avait moi je parlais de force d'immersion, parce que je trouve que quand on a les cartes personnages, notamment si on connaît un peu bien sûr le théâtre shakespearien, je prétendrais pas non plus être une spécialiste, hein, mais malgré tout j'en ai quand même lu quelques pièces, on retrouve dans certains pouvoirs des cartes, c'est lié au personnage, hein. Par exemple il y a Macbeth, le pouvoir qui va donner la carte, elle est liée au personnage.
Tout à fait.
On a sur les personnages féminins aussi, voilà. Et ça je trouve que c'est ça qui permet de passer d'un jeu qui est quand même un jeu de gestion, un thème qui arrive à aussi rentrer dans le jeu et donner cette sensation d'être dans le monde de Shakespeare vraiment. Donc,
c'était le souhait de Cyril qui a dirigé toute l'édition graphique et tout, c'est ce qu'il a demandé aux illustrateurs, et après leur travail a été énorme. Il m'a demandé, on était en 2014 à Cannes, juste après la signature, il m'a dit cette phrase que j'oublierai jamais, maintenant il faut que tu nous fasses confiance. Voilà. Donc c'est vrai que à partir de ce moment-là, ils avaient leur manière de travailler, j'avais des comptes rendus, on me demandait mon avis, mais je n'ai plus rien apporté à partir de ce moment-là. Voilà.
D'accord. Donc être auteur, c'est aussi accepter à un moment d'abandonner.
Tout à fait. Et puis hormis un petit jeu de cartes que j'avais sorti chez BlackRock en 2010, c'était un premier vrai jeu tel que je les aime. Et en plus, chez Istari, chose à laquelle je n'aurais jamais espéré, je ne peux que faire confiance.
Un petit peu après la sortie du jeu, il y a eu une extension, l'extension Backstage, qui est sortie. Si jamais le jeu devait connaître une seconde vie, tu as encore des idées pour continuer à l'étendre actuellement?
Tout de suite, non. Je n'ai pas pensé, parce que d'abord, j'ai d'autres choses à penser.
On y viendra.
Voilà, on y viendra. Et donc, pour l'instant, j'ai pas réfléchi. Pour moi, c'est Shakespeare, il est passé. S'il doit revenir, tant mieux, mais on en parlera à ce moment-là.
D'accord. Alors effectivement, il y a un autre gros projet, donc on en a déjà parlé un petit peu, qui est beaucoup plus actuel, cette fois avec un autre éditeur, la boîte de jeux, en l'occurrence Neta Tanka. Alors là, si je ne m'abuse, c'était aussi ta première expérience d'un jeu financé par une campagne, campagne de financement participatif sur Kickstarter. Une expérience un petit peu différente. Est-ce que tu as eu une implication particulière dans la campagne en tant qu'auteur ?
Dans la campagne, non. Enfin, on m'a tenu au courant, mais je ne me suis pas du tout occupé de la campagne, je l'ai suivi.
Mais est-ce que dans sa préparation, tu as dû fournir, par exemple, plus d'éléments de gameplay des choses
ou des idées pour les stretch goals, les choses comme ça ?
Les idées des stretch goals, elles sont venues, j'en ai découvert. Elles sont venues par des discussions entre nous ou simplement de leur côté. Après, c'est vrai qu'il m'a demandé la version solo. Donc je me suis attelé à la version solo. J'ai eu l'idée de l'extension. Ça, il m'en avait pas forcément parlé, mais je l'ai rajouté. Voilà. J'avais eu une idée un jour, je l'ai testé, on en a discuté, on a testé, et puis ça marchait. Donc il n'y avait pas de raison de ne pas la mettre. Mais j'ai été beaucoup plus impliqué à partir du moment où ça a été signé. Contrairement à Shakespeare, les deux projets ont été vraiment totalement différents, vécus totalement différemment pour moi.
D'accord.
Donc, si on revient un peu sur la jeunesse de Neta Tanka, c'est quelqu'un t'a dit on veut ce thème-là ou on veut cette mécanique, comment ça a germé?
C'est encore plus bizarre, mais c'est en 2013, parce que je suis enseignant en SECPA, je ne sais pas si vous connaissez, l'enseignement adapté avec des jeunes. Et l'année précédente, on avait une classe qui avait débuté un projet de découverte du patrimoine immatériel du Bourbonnais. Et en début d'année suivante, mon directeur m'a demandé, écoute, ça serait bien de leur faire faire une production, de leur faire faire un jeu. Sauf qu'on me demande de faire un jeu au mois de septembre que l'on puisse avoir produit au mois de mai.
Oui.
Donc, faut aller très, très vite. Et suite au cahier des charges, j'ai imaginé la mécanique qui allait être celle de Netatanka, finalement. Donc on a fait ce jeu, donc on était en 2013-2014, et en 2016 je l'ai ressorti, je l'ai emmené sur un festival, et là les gens ont totalement fait abstraction du thème, ils se sont bien plu, et j'ai dit bon là faut que je pense à un autre thème. Et au départ je suis parti sur les Amérindiens. Donc on était en mai 2016, en septembre je rencontrais Benoît de la boîte de jeux, qui a tout de suite bien accroché, et 3 mois plus tard il me proposait une place dans son planning de sortie.
Donc le thème t'est venu, et là comment tu travailles, parce que c'est pas de...
Alors sur ce type là j'ai cherché de la doc sur internet, j'ai lu, et il y a plein de points, puisque même si la mécanique de base elle est la même que le jeu que j'avais fait avec les élèves, il y a tout un tas de choses qui ont enrichi le jeu, tout en étant lié justement aux recherches que j'avais fait, quoi. Comme par exemple la générosité dans le jeu, mmh, n'existait pas du tout dans
oui, qui est une des mécaniques un petit peu, je dirais, originale. Hein. Oui. Mmh.
Voilà, c'est tout plein de petits points qui ont fait que ça collait très bien avec ce qui existait déjà sur Figo, qu'on a transposé certaines choses et ça a donné ce que ça a donné.
Oh, du coup, on est un peu aussi obligé d'en parler, c'est parce qu'il y a eu une petit peu de pas de mini
polémique.
Tempête, ouais, polémique sur au moment du jeu, notamment d'Amérique du Nord, de gens qui disaient que le jeu, le thème était utilisé de manière un peu exotique, un peu, nous on a entendu un peu ça, donc parce que, enfin, dans le sens où que c'était pas complètement historiquement vrai, que, de toute façon. Après, toujours un peu compliqué d'être de coller à une réalité historique, mmh, parce qu'on n'est pas dans du serious game non plus.
Tout à fait.
Ça, tu t'en as entendu beaucoup parler, ou Benoît, tu as plutôt fait un peu le barrage là-dessus?
Peut-être que Benoît a fait le barrage, mais c'est ce qui a fait qu'on n'est plus sur des vrais Amérindiens, mais on est sur une tribu totalement imaginaire qui est un mixte entre des tribus amérindiennes et des tribus d'Asie centrale.
D'accord.
D'accord.
Puisque Neta, c'est du Népalais, et Tanka, c'est du Lakota.
Et donc là encore, on était comme dans Shakespeare, tu recherches vraiment une mécanique et une thématique qui sont imbriquées, ce qu'on reproche parfois à certains jeux. Hein.
Pour moi, le réalisme dans tout, quand j'étais maquettiste, je faisais du diorama, j'ai même fait de l'aéromodélisme, mais pour moi, ce n'était pas pour faire de l'acrobatie, c'était pour faire du vol réaliste. Voilà, j'ai toujours voulu m'approcher le plus possible de la réalité. Du coup, les premiers jeux que j'ai faits étaient totalement injouables. et c'est vrai que l'expérience, l'expérience de découvrir de plus en plus de jeux, d'avoir travaillé avec Istari, et ça fait que ça forge de l'expérience et ça aide beaucoup.
C'est ce qui te permet d'introduire le niveau d'abstraction nécessaire dans les jeux pour que ça redevienne jouable.
Voilà, mais l'idée, c'est vrai que l'idée de ce plateau vu du ciel, circulaire, déjà c'était un souhait de ma part que les joueurs n'aient pas l'impression qu'ils voient le plateau à l'envers de tel endroit.
Oui. Mm-hmm.
Et fait que quand je le regarde encore maintenant, on n'a pas vraiment l'impression de voir un plateau de jeu, mais on est dans un village et on circule dans ce village où on peut faire tout un tas d'actions qui ne sont pas compartimentées comme dans certains jeux.
Alors si mes informations sont exactes, le jeu va bientôt être livré, je crois.
Normalement, première quinzaine au plus tard 15 avril. Voilà.
D'accord, donc c'est tout proche. Mmh. Et j'imagine que le jeu aura aussi une vie en boutique, comme à l'habitude avec la boîte de jeu.
C'est prévu, puisque justement il y a eu une version Kickstarter de base, mais aussi une version de luxe et une version boutique, donc forcément avec un peu moins d'éléments puisque il aurait fallu pledger pour avoir tous ces éléments.
Mmh.
Et ce qui a été assez énorme, justement, une trentaine de stretch goals débloqués comme ça, même s'il y en a qui sont insignifiants, mais oui, qui ont quand même leur petit côté sympathique.
Et tu parlais tout à l'heure du fait que Benoît de la boîte de jeu t'avait demandé d'intégrer une version solo. C'est quelque chose de compliqué, ça, ou on y pense, enfin, parce que c'est quelque chose qui est assez demandé maintenant. On sent que beaucoup
moi-même,
de jeux...
j'adore les jeux qui se jouent en version solo. Et Shakespeare, il faut savoir que je n'ai rien fait sur la version solo. C'est Cyril un jour qui s'est venu par hasard. Il a eu besoin d'essayer un truc. Il était tout seul, donc il a joué. Il s'est aperçu que ça marchait, donc il l'a mis en place. Depuis, j'ai certainement beaucoup plus joué en solo que même plusieurs sur Shakespeare. Mais la version solo, oui, maintenant j'y pense. Là, le prochain jeu sur lequel je suis, je suis en train d'équilibrer la version solo. Mais là, contrairement à Shakespeare, où on ne se bat pas contre quelqu'un, dans état en quart, on a un objectif. Là, j'ai été obligé dans ce prochain jeu d'inclure un bot.
Alors, tu peux nous en dire un petit peu plus, justement, sur ce prochain jeu, ou c'est un petit peu trop tôt ?
Ouais, je préfère attendre un petit peu. C'est parce que le thème n'est pas fixé, du coup, même si, comme dans Neta Tanka, je suis parti du thème pour faire le jeu, du coup, ça... Mais je pense qu'il y a une transposition qui ne sera pas extrêmement difficile. Et de la même manière que Cyril a préféré transposer au XVIIe siècle plutôt que le théâtre actuel, de la même manière qu'on passait du patrimoine immatériel du Bourbonnais à des tribus plus exotiques, là voilà, on va simplement essayer de rendre le jeu un peu plus sexy.
En tout cas, c'est un jeu qui est déjà signé, si je comprends bien.
Non, pas encore. C'est ni sur le point, c'est en cours. Il y a encore des ajustements à faire pour le rendre un peu plus fluide et surtout donc trouver un thème. Mais bon, pour l'instant, on est sur essayer de fluidifier toute cette mécanique.
Très bien.
Donc là, sur le salon, tu es à 100% sur Neta Tanka sur...
Alors, je vais dire... Allez, on va dire 80% parce qu'il y a quand même la famille BlackRock.
Ouais.
Où je participe un petit peu. Alors, pas trop pendant le salon, mais c'est vrai que toute la partie préparation et... Comme chez BlackRock, on teste beaucoup de jeux, ben, on en profite.
Oui, donc on va parler de BlackRock un petit peu, parce que tu fais partie un peu de l'équipe, enfin tu fais partie de l'équipe fondatrice.
Oui, tout à fait. On donc, était des cinq premiers.
Des voilà. Cinq premiers. Mmh. Donc, comment tu le concilies cette partie-là avec le métier avec l'auteur, enfin le fait d'être auteur, comment ça s'imbrique pour toi ?
Alors, quand on a créé BlackRock, donc on était que cinq, donc finalement on a énormément donné de notre personne tous les uns les autres. Petit à petit, l'entreprise grandissante, on a délégué. Enfin, moi, personnellement, c'est pour ça que quand tu as demandé tout à l'heure si j'étais plutôt pro ou perso sur le salon, je la joue plutôt perso. mais c'est vraiment une famille géniale. Et ça n'a pas d'autre mot que famille, parce qu'on est tous heureux de se retrouver quand on a des moments comme ça. Et tout se passe bien, c'est surtout ça.
Et c'est vrai que c'est la dénomination qu'on entend souvent quand on entend parler de BlackRock. Mmh. Et c'est une famille qui s'est beaucoup agrandie ces dernières années.
Mmh. Ah, tout à fait, parce que je veux dire, on est parti à 5, et à savoir qu'à l'époque, on était quand même 4 de la même famille déjà.
D'accord. D'accord.
Et après, tous les gens se sont parfaitement coulés dans le moule et apprécient énormément le travail de Johan, parce que c'est quand même grâce à Johan si on en est tous là.
Et aujourd'hui c'est ça te prend encore beaucoup de temps ou...
Non, je suis même presque de loin des fois, hein. Je participe même si c'était une époque que je pouvais expliquer tous les jeux de BlackRock, là j'en connais pas la moitié.
Il faut dire qu'il y a beaucoup de nouveaux éditeurs qui sont arrivés aussi.
Tout à fait, oui.
Donc,
oui.
Votre catalogue...
J'ai plus le nombre d'éditeurs en tête, mais je crois qu'on est déjà le catalogue à 350 références.
Ça te paraît important pour toi, justement, en tant qu'auteur, où on pourrait penser que les auteurs, ils sont un peu à côté, enfin, en dehors, d'être resté quand même, d'avoir cette vision aussi du métier, de la distribution, enfin, de l'édition.
C'est intéressant. Je ne vais pas dire que c'est important, mais c'est intéressant. C'est surtout... Enfin, moi, je n'étais pas auteur avant qu'on ait commencé BlackRock. C'est à la suite de mon premier festival que j'ai eu envie de créer des jeux.
D'accord.
J'ai toujours eu la fibre créatrice, quoi. Je faisais des maquettes, je fabriquais des choses. Je suis menuisier à la base, donc voilà.
Non, le fait d'avoir cette vision globale du métier, enfin du domaine du jeu, c'est-à-dire les différentes facettes de l'activité.
C'est intéressant qu'un auteur connaisse un petit peu tout le fonctionnement. Ça permet d'avoir de meilleurs contacts. Mais c'est vrai que justement, moi, j'ai obtenu tous ces contacts. C'est grâce à BlackRock, si je fais des jeux, si je suis édité. Parce que si j'avais été un simple auteur pour aller sur un salon, c'est très difficile de toucher les personnes. Moi, je les ai connus avant, finalement. Donc, après, ça se fait tout seul. Quoi, quand on veut se rencontrer, c'est plus simple.
Tu as encore d'autres choses dont tu as envie de parler, de d'autres projets, enfin, tu...
Bah, les projets... Je pense que en tant qu'auteur, faut surtout pas se forcer.
Ouais.
C'est comme ça vient. J'ai des projets. Je dois avoir un ou deux jeux dans la tête depuis des années. Donc je n'arrive pas à lancer parce que je sens pas que c'est le moment. Quoi, c'est tout.
Ou peut-être parfois il faut en vider. Enfin, faut réaliser une idée, un projet pour pouvoir laisser la place aux autres.
Oui, peut-être. Mais bon, je pense que les auteurs ont tous des manières différentes de travailler. J'ai écouté Antoine Boza une fois dans une interview où il disait qu'il aimait beaucoup travailler sur plusieurs projets à la fois. Perso, j'ai du mal parce que j'ai l'impression de ne pas faire les choses bien. Ces dernières semaines où j'ai pas mal travaillé sur mon proto, justement, j'avais délaissé un co-auteur parce que j'ai aussi un autre jeu pour la première fois en partenariat avec un autre auteur. Donc je l'ai un peu délaissé, je m'en excuse auprès de lui s'il m'écoute à un moment, mais on va y revenir. Il faut pas, enfin il y a des gens qui en ont fait leur métier. J'aurais peut-être souhaité que ça m'arrive également. J'ai 56 ans, j'arriverai un jour à en faire un peu plus, mais j'ai surtout envie de vivre.
Eh bien écoute, sur ces bonnes paroles, Hervé, on va te remercier encore une fois d'être venu à nos micros.
C'est moi qui vous remercie.
Chères auditrices, merci. Chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la et rendez-vous sur notre page Tipeee. Le Tipeee, c'est important, hein, Paul Gara.
Oui, n'hésitez pas, il faut tipper.
Allez, on se retrouve très vite sur Proxy Jeux pour une autre interview ou un autre format. À très bientôt et surtout,
jouez bien.
Au revoir.